Bienvenue sur Nomos TV, c'est Alexandre Cormidonie. Nous sommes en direct pour un autre samedi Cormidonie, 16h, 22h en Europe de l'Ouest. Est-ce que tout se passe bien au niveau de la technique? L'image est belle, le son est bon. Je suis évidemment en compagnie de Philippe Plamondon derrière la console. Comment ça va, Philippe?
Tout va bien, merci.
Est-ce que tu suis cette campagne électorale?
Ouais.
2022?
Oui.
Chaque jour?
Ah oui.
T'écoutes TVA, LCN, Radio Cannes, tu
non.
lis Le Devoir,
qu'est-ce qui se passe? Non, je me contente de défeuiller ça en surface.
Je comprends.
Il y a le débat, évidemment, que j'ai regardé au complet.
Le débat, face-à-face TVA!
Ah oui, même le point de presse a été merveilleux après Le Devoir, on en reparlera, mais j'imagine qu'on va en reparler tantôt, mais même le point de presse a été génial quand les justiciers, là, les juges journalistes.
Oui, les juges journalistes!
Ah oui!
Les journalistes qui s'érigent comme juges de la bien-pensance se mettent à nous dire ce qu'on peut penser et ce qu'on peut pas penser. Donc, tu suis ça. Est-ce que ton choix est fait, Philippe?
Moi, je l'ai déjà dit, les nomosiens, je l'ai déjà dit souvent aux nomosiens que je vis dans une circonscription de marde.
Rouge!
De rouge sang. On pourrait remplacer les candidats par n'importe quoi.
Ouais.
Des animaux, des fruits, puis ça passerait rouge. Puis j'ai même regardé cette semaine en me disant, y a-tu un espèce de petit challenge?
Non.
Mais pas du tout. C'est même comme une complètement ridicule.
Ouais, ouais.
Fait que donc, j'ai pas beaucoup d'intérêt.
Oui, c'est pas une circonscription pivot où tu te dis peut-être que mon vote, tu vois, ça peut jouer à 100. Sans vote d'un côté ou de l'autre, non, là, on n'est vraiment pas là-dedans. Là.
Ouais, non, c'est vraiment... Puis bon, évidemment, pour les sujets chers à Nomos TV et à notre cause nationaliste, on peut pas dire que c'est très enjouant.
Fait non.
Que, bon, je suis pas non plus complètement à la déprime.
On n'est pas très... C'est pas une course enthousiasmante pour notre camp parce qu'on se sent pas vraiment représenté. Donc forcément, on regarde ça un peu de manière distante. Bon, moi, je dois dire quand même que savoir que les libéraux ne sont pas au pouvoir, ça me fait quand même du bien. Hein? Après l'air Charest et Couillard, de voir le Parti libéral en si mauvais état, ça me fait quand même du bien psychologiquement. Ça, je peux pas le nier. Après, voilà, hein? C'est ce que c'est. On va dire ça comme ça. Ben, écoute, mon cher Philippe, c'est parfait parce que tu as parlé du débat, mais c'est ce dont on va parler en deuxième partie de cette émission, en deuxième heure. On va faire une analyse de ce premier débat, le débat TVA, le face-à-face TVA. J'ai écouté pour vous, encore une fois, 2 heures. Écoutez, nos chers politiciens, nos chers chefs de parti. Voilà, c'était beaucoup plus cacophonique. On va revenir là-dessus durant la deuxième heure. Durant cette première heure, on va quand même parler de l'immigration, thème fort de cette campagne. J'en ai un peu parlé la semaine dernière, mais le sujet s'impose vraiment dans la campagne. Et ça, c'est quand même un aspect positif. On pouvait craindre que l'immigration passe sous la trappe. François Legault a fait en sorte que ça soit absolument pas le cas avec ses déclarations. Il a c'est lui qui a mené le thème de la campagne de l'immigration. Il a forcé finalement les autres candidats à se positionner là-dessus de façon assez intelligente, je pense. Même si voilà, on peut débattre de l'opportunité de se rétracter, etc. Il n'empêche que c'est lui qui donne le tempo de cette campagne et qu'il a décidé de mettre l'immigration un peu au centre de la course. Ce qui fait que les autres partis sont obligés de se positionner par rapport à ça. Donc, on va revenir là-dessus. On va parler évidemment de ce qui s'est passé en Suède, n'est-ce pas? Un petit bouleversement politique en Suède. On va parler également du chemin Roxham. Hein? Vous savez que ça se poursuit à Roxham. C'est la continuité, finalement, hein, de la noyade illégale et, évidemment, du trafic humain. Et puis, en deuxième partie d'émission... On va revenir sur le face-à-face TVA, une petite analyse nationaliste de ce débat. Mon cher Philippe.
On est évidemment avec nos nomosiens habituels, les plus fidèles qui sont là.
Oui, monsieur.
On salue Patrick qui nous dit nomos pour 1024 ans. on salue Francis qui est à Kamouraska, à Saint-Pascal.
On salue.
On a Patrick qui nous saluait du Saguenay. On a Kevin qui est avec nous, qui nous salue et l'on le salue aussi.
Kevin.
Vent du Nord qui est
Vent
de Montréal
du Nord,
remplacé.
Toujours
présent. Oui, hein, bienvenue dans le club, Montréal remplacé. Félix qui nous salue de Fleurimont à Sherbrooke, Cavier Xamu qui dit « Duhem et ses libéraux sont à la ramasse ».
Ah ben là, oui. Sur plein de sujets, en effet, ils sont complètement à la ramasse.
C'est épouvantable. C'est comme c'est le nouveau camp fédéraliste. C'est pas joyeux. Saint-Louis du Poitou, bonsoir, le clavardoir.
Comment bonjour, ça se passe? Le clavardoir.
Lionel Gros, bonjour, les haineux, on le salue. Hein? Que les jambons
les
de radio.
Haineux avec sont... un N.
Oui, le mot en N, on va en reparler. Hein?
Le mot en haine a fait son apparition dans la campagne. Ah là là, qu'est-ce qui s'est passé au débat? On va reparler de tout ça dans la deuxième heure.
X13 qui est avec nous.
X13. Espion.
Des Mathias Loublanc qui nous salue de Vendée.
La Vendée est toujours présente.
Salutations de l'Estrie. Bonjour de Stormway près du lac Mégantic. Salut à toute la race canadienne-française. On salue Réal qui est toujours avec nous.
Réal. Fidèle au poste, Réal.
Exact. Lac Mégantic, la Costaude, que j'ai oublié de nommer.
Excellent.
D'ailleurs, on a déjà un super clavard noir, Alexandre.
Bon, on y va tout de suite. On saute.
C'est Félix Rousseau
Salue, on le remercie.
Exact. Puis qui nous envoie le code Renault.
Oui.
C'est ce qu'il nous dit.
Il nous dit code Renault. Ben, code Renault, allez vous abonner sur sa chaîne.
Oui.
Je pense que là, il est plus sur YouTube, il est sur Utreon, un truc du genre. Enfin bref, vous pouvez le suivre sur Twitter. Il est encore présent sur Twitter. Et puis vous allez... Boris Goulag, code Renault, vous allez le suivre. Vous allez rigoler avec ce type. Sans plus tarder, mon cher Phil. Ça continue.
Ouais, je vais terminer. Ah ouais, mais là, on est content d'être avec le monde. Puis les gens, c'est pareil. On a une salutation de Carignan, Mars, le gallo-romain qui nous salue de France.
Le gallo-romain, hein,
oui,
pas mal, ça.
Oui, oui. Puis, écoute, ça finit plus. On salue Isabelle qui est là. Chocolat chaud aussi de Vaudreuil.
Chocolat chaud.
Oui, Auto-Québec ici qui nous salue. Charlevoix. Au Québec, ici, ça fait longtemps. Hein? C'est un ami de
l'Angleterre. Ah, au Québec, ici, oui. Ça fait longtemps qu'il est là.
Ça fait longtemps qu'il est là. On salue,
on salue chaleureusement dans son Charlevoix.
Trois-Rivières, Trifluvie, ta vie. Salue nos amis en Trifluvie.
Mais ouais. Puis
Prairie aussi qui nous salue. Fait que c'est vraiment cool. Hein? En tout cas, salut à tous.
Ben ouais, les Trifluviens qui ont le. Ah oui, la patrie du chef! Le chef!
Ouais.
Maurice! Est enterré au cimetière
Saint-Louis.
Trois-Rivières.
Oui, cimetière Saint-Louis à Trois-Rivières.
Exactement.
Ouais.
Sans plus tarder, mon cher Philippe, on va passer à une annonce, aux annonces en fait. Alors, ouais. Première annonce, comme d'habitude, le Super Clavardoir, vous le savez, pour nous financer ou à Pop-Pop, vous allez sur le Super Clavardoir, posez une question, lancez un commentaire, là c'était code Renault. Façon pour nous de nous financer parce que vous savez que, oui, Pierre-Carl Pelado ne nous envoie pas de pognon, Justin Trudeau non plus, François Legault non plus, on n'a pas de subvention. Contrairement à tous les médias que vous voyez, hein, je rappelle le Devoir, la presse, Radio-Canada, etc. Qu'est-ce qu'il y a, Philippe?
On a utilisateur 06.
Utilisateur 06.
Qui vient d'envoyer 500$ en disant « Veuillez accepter ces quelques émoluments pour avoir eu la capacité de vous taper les débats pour nous. »
Merci, mon cher! C'est un plaisir! Ben, merci beaucoup, c'est très généreux. Merci à vous pour ce généreux don. Très apprécié. Merci beaucoup. C'est grâce à vous qu'on est capable de faire ça. Vous le savez, on n'a pas de subvention. Donc, ça dépend vraiment des nomociens, des gens qui nous soutiennent, qui nous aident. C'est grâce à vous qu'on est capable de faire ce travail de réinformation nationaliste.
Vraiment.
Et c'est très apprécié.
Mais c'est vrai.
On sait que vous aimez ce qu'on fait. Mais nous, on aime ça aussi, vous dire que vous êtes apprécié et que sans vous, tout ça ne serait pas possible.
Oui, oui.
Et ça fait le lien avec la deuxième annonce. Hein, on est en train de créer une communauté Nomos TV. Qu'est-ce que vous faites pour appartenir à la communauté Nomos TV? Vous pouvez clavarder finalement avec des gens. Vous téléchargez Telegram, hein, l'application Telegram, le programme Telegram sur votre téléphone cellulaire ou votre ordinateur. Et puis, vous me contactez à @acormierd. Et puis, je vous ajouterai au groupe de discussion Nomos TV. Pour ça, il faut évidemment être membre de Nomos TV. Donc, vous m'envoyez votre courriel et je valide que vous êtes bien membre de Nomos TV. Merci à tous et merci pour ce généreux don.
Oui. Écoute, on a d'autres super clavardoirs.
On y va, les super clavardoirs!
Ouais.
Hop, hop, hop!
On a ici Actarus.
Actarus,
oui, merci. Qui nous dit « Ave Nomos ». ceux qui s'apprêtent à se faire réinformer vous saluent.
Ah, pareillement, mon cher, vous salue.
Merci beaucoup. Et on a M. De Laval qui nous dit « Salut les gars, je suis un jeune de 20 ans qui vous suit depuis 2 ans.
Excellent.
Je travaille au Carrefour Laval. Oh. La situation est alarmante.
Ah.
Vous avoir découvert a été donc une bénédiction pour moi. » Puisque j'ai enfin trouvé des gens qui pensent comme moi. Continuez votre bon travail et mille merci.
Bien, c'est un plaisir, mon cher. C'est un plaisir. Vous savez, on fait ça depuis combien de temps? 2016 à peu près maintenant, Philippe?
Oui, 2007? Oui, 2016.
Bon, ça fait plusieurs années quand même qu'on est là, mais les gens continuent de nous découvrir de plus en plus, etc.
Oui.
Donc, c'est très bien. Vous voyez, de la jeunesse, il y a de la relève nationaliste au Québec. Et c'est bien. Je pense qu'on contribue un peu à une sorte de prise de conscience nationale. Au Québec, il y a beaucoup de gens qui pensent comme nous, mais qui ne sont pas capables nécessairement de le formuler ou qui se croient très isolés. Et c'est ce qui est bien avec Nomos TV. Vous n'êtes pas seul. Hein? Vous n'êtes pas seul à constater qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans la société, que ce soit la propagande transgenre sur les enfants, les bloqueurs de puberté et des changements de sexe sur des enfants prépubères. Ça ne tient pas vraiment la route, ou que ça soit, par exemple, le changement de peuple, l'immigration massive, l'anglicisation, l'islamisation, ce Canada dingo qui nous impose le grand remplacement parce que les élites canadiennes sont dans un projet fou de transformer le Canada en pays de 100 millions d'habitants en 2100. Donc, vous n'êtes pas seul. Nous sommes des milliers au Québec. Nous mettons en place finalement une sorte de réinformation nationaliste et un réseau de nationalistes pour l'avenir. Hein, parce qu'on essaie de préparer le monde de demain qui sera beaucoup plus dur que le monde qu'on a connu. Comme le monde que j'ai connu, par exemple, dans les années 90 ou 2000, personne à l'époque pensait que les Canadiens français deviendraient minoritaires au Québec. Et il faut constater qu'en effet, dans les années qui viennent, donc la génération qui va nous suivre, il y a une possibilité, si les flux migratoires ne sont pas arrêtés rapidement, que les Canadiens français deviennent minoritaires au Québec, aux alentours des années 2050-2060. Donc, il faut se préparer à ce monde-là et essayer de continuer à avoir les réseaux de pouvoir à l'intérieur de ce Québec de demain, tout en construisant l'État national petit à petit. On abandonne le référendisme et on prend la possession effective de l'État. Il faut que les nationalistes sortent des rêves, sortent du catalanisme, hein? Les niaiseries catalanes, là, les déclarer des indépendances qui ne sont pas effectives et qui, évidemment, sont réprimées, comme tout ça était totalement prévisible. Hein. Je rappelle qu'on l'avait prévu à Nomos TV. Il faut sortir du péquisme, du péquisme traditionnel pour regarder, finalement, la réalité en face et reconsidérer notre intérêt national. C'est ce à quoi sert Nomos TV. Mon cher Philippe.
On remercie notre ami Roman.
Roman!
Qui est avec nous, comme d'habitude, qui est fidèle au poste.
Fidèle au poste, qui tweet, Roman. J'ai vu, il retweet beaucoup. Non, parce que ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire en tant que militant. Créez un compte Twitter, vous retweetez le compte Nomos, le mien ou celui, évidemment, de Philippe.
Roman qui nous dit « Vous êtes mon moment de réconfort de la semaine. Je suis tellement sidéré des propos de Macron voulant développer l'immigration, le grand remplacement dans les campagnes hexagonales. Ah. Merci à vous. Nomos pour Milan. »
Ah oui, écoutez.
J'ai vu ça, il veut faire de l'épandage de migrants. En fait, il veut faire comme une espèce de...
La régionalisation de l'immigration.
Oui, c'est ça. Mais de façon quand même assez importante. Hein.
Oui, et la France a une tradition étatiste, autoritaire, beaucoup plus forte que le Québec, ce qui fait que ça se fait en France, alors que ça se fait peu au Québec.
Oui.
Les immigrants restent principalement à Montréal.
Exact.
En France, il y a vraiment des politiques socialistes de répartition, voilà, de construction d'HLM, etc. Cette espèce d'État socialiste français pro-migrant immigrationniste, fait en sorte qu'il y a vraiment maintenant des Mahométans, des Africains, un peu dans toutes les régions françaises. Ça s'en vient chez nous, évidemment. Vu les volumes d'immigration qu'on reçoit, ça se répand un peu partout.
Ça commence à paraître, Alexandre, à Trois-Rivières, à Sherbrooke, Québec.
Ben
Québec, c'est hallucinant, le visage de Québec change.
Oui, parce qu'on reçoit trop d'immigrants. Donc forcément, ça se concentre à Montréal, mais ça s'égrène un peu partout.
Oui.
Sauf que ce n'est pas nécessairement le fait de l'État, c'est ça que je veux dire. Tandis qu'en France, il y a vraiment une volonté étatiste très forte là, de rendre la France un pays islamo-antillais. Ah, islamo-africain! Haïti plus le djihad. Ouais, c'est des perspectives pas très sympathiques pour la France. Soyons honnêtes. Par contre, ça me permet de rebondir ici sur la capsule que vous avez faite, Philippe.
Oui.
L'annonce numéro 3, oui. Culture et société numéro 128, le Canada ébranlé. On le sait, Pierre Poilievre a été élu chef du Parti conservateur du Canada. Il y a Daniel Smith en Alberta et il y a François Legault, évidemment, au Québec. Donc, l'hégémonie trudeauiste, là, Trudeau est là depuis 2015, est un peu ébranlée. Hein. Il y a des choses qui se passent. Tout ça se fait en plus quand il y a le décès de la monarque du Canada, Élisabeth II. Hein, maintenant, on est des sujets de Sa Majesté Charles III. Mais oui, c'est comme ça, le Canada. Qu'est-ce que c'est? C'est l'Empire britannique en Amérique du Nord. C'est la civilisation britannique sur ce continent. Donc, il y a une espèce de... Les choses changent. Et Trudeau, je crois, va commencer à sentir la soupe chaude. Hein, parce qu'il y a l'usure du pouvoir aussi. Il y aura probablement des élections en 2025. Et ça va commencer à faire du temps qu'il est là, le petit Trudeau. Donc, vous avez analysé un petit peu ces événements qui se produisent finalement sur la scène politique.
Oui, puis bon, évidemment, on n'est pas, comme on commence en disant qu'on n'est pas en train d'ouvrir le champagne.
Non, bien sûr.
On fait vraiment comme une analyse de surface sur le portrait. Premièrement, la mornif que Jean Charest, la vieille poubelle corrompue,
qui
a scrappé le Québec... là, vraiment, ça a fait plaisir.
Non, ça, c'était chouette, quand même. Oui. La mornif de Jean Charest,
oui.
On est tous contents.
Oui.
Ça fait du bien, quoi.
Ça, c'était quand même, c'était positif. Poilievre aussi dit des choses positives. C'est pas un ultime débile. C'est un multiculturaliste endieusé,
oui,
et enthousiaste.
C'est un Canadien.
C'est un vrai Canadien. Par contre, il est anti-woke, ce qui donne une petite touche, comme je dirais, cute, là. Je dis, je suis pas du tout en train de dire « Hey, wow, on va péter la gueule à tout le monde. » C'est pas Poilievre qui va sauver la race canadienne-française ici, là.
Ah non.
Ça, c'est sûr que non. Par ailleurs, il pourrait mettre une conjoncture, ou en tout cas placer une conjoncture...
Il dit que le grand remplacement est une théorie délirante.
Ah oui.
Pierre Poilievre.
Bien, c'est sûr. Parce que ça arrive un peu dans sa maison à lui.
Voilà. On va dire ça comme ça.
Pas être plate, là.
Non, mais c'est un peu ça, quand même. Donc, oui, tout à fait. Non, mais je suis d'accord avec toi. Il faut nuancer tout ça. On ne pense pas que Poilievre est un grand héros, là.
Non. On parle aussi de Charkaoui, qui a été engagé par la commission scolaire. Qui a été foutu dehors 12 heures plus tard.
Oui, exactement.
Puis, on parle aussi de Xavier Watteau, un prof de l'école secondaire Louis Riel à Montréal, qui met des drapeaux arc-en-ciel... Et Black Lives Matter, des autocollants Antifa, un hurlu-berlu là, de type bispirituel. fait que donc, c'est vraiment ça, c'était la catastrophe. C'était le professeur du mois.
Oui, oui, le professeur du mois. Mais il n'y a pas... Francis Dupuy-Déry nous dit, il n'y a pas de wokisme, il n'y a pas d'extrême-gauche dans les universités québécoises, dans le système d'éducation québécois. Hein, les anarchistes nous disent, il n'y a aucun problème, tout ça c'est la folie, c'est la droite qui flippe. C'est complètement fou. Ouais, tu vois. Bref. Superbe. Donc,
oui.
On vous invite à regarder ça. Culture et société numéro 128, le Canada ébranlé. Évidemment, accessible aux membres de Nomos TV. Et il y a une quatrième annonce, mon cher Philippe.
Oui.
Numéro 1.
Oui.
Le Jogoton 2022 pour l'école Sainte-Famille. Alors là, vous dites quoi? L'école Sainte-Famille, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est une école privée catholique qui est à Lévis, l'école Sainte-Famille. Et là, il y a une collecte de fonds. Alors, depuis, je vais vous lire finalement l'introduction de cette demande de fonds, de cette collecte de fonds. Depuis de nombreuses années, les parents catholiques du Québec demandent instamment que soit créée une école pour leurs filles d'âge secondaire. Plusieurs parents se sont impliqués afin de trouver une solution à ce problème si important. Ils se sont mis en quête d'une propriété qui permette de commencer cette œuvre dans les meilleurs délais. Leurs recherches les ont menés vers une propriété à Beaumont, aux abords du fleuve Saint-Laurent. Une offre d'achat au montant de 435 000 $ a été déposée et acceptée par les propriétaires actuels. Il reste cependant à offrir le changement de zonage. Le processus est en cours. Il faut bien prier à cette intention. Le montant à lever pour permettre la transaction est de 300 000 $, soit 130 000 $ pour la mise de fonds et 170 000 $ pour les travaux de rénovation et d'aménagement. Cette acquisition serait l'aboutissement de plusieurs années de prières et d'efforts avec l'implication des familles du prieuré Sainte-Famille. Pour plus d'informations, voir le site de la Fondation caritative qui chapeaute le projet, Fondation FIDES. Toute aide sera appréciée. Merci pour votre générosité et que Dieu vous le rende au centuple. L'objectif est d'accumuler ici 75 000 $. Donc, là, vous vous dites, oui, mais attendez, c'est bien beau, les églises catholiques pour filles, nanani, nanana. Moi, je ne suis pas catholique, je m'en fous de tout ça. Mais écoutez, il faut bien penser à l'avenir, les amis. Le monde de demain sera un monde multiracial, multicommunautaire au Québec. Ce l'est déjà, vous allez me dire. On est déjà un peu dans ce monde-là. Mais cette tendance va se radicaliser. Donc, il va falloir que nous retrouvions une conscience identitaire nationale forte, canadienne-française, et il va falloir qu'on ait des institutions à nous. Alors, évidemment, le catholicisme traditionnel n'est pas strictement nationaliste, à proprement parler. Hein? On va avoir des Africains catholiques traditionnalistes. Mais grosso modo, pour connaître un petit peu ce qui se passe à l'école Sainte-Famille de Lévis, c'est très canadien-français. Et avoir des bastions conservateurs canadiens-français, notamment sur le plan de l'éducation, je pense que c'est intéressant pour la suite des choses. Il faut un peu penser, alors je sais que ça va faire sauter de leur chaise certaines personnes, mais vous savez ce que les juifs libéraux font, hein? Les millionnaires juifs, ils financent les tribalistes à boudin qui ne sont pas dans la modernité. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment de solidarité entre les juifs libéraux qui font du pognon et leur espèce de secte folle. Pourquoi? Parce qu'ils ont une conscience ethno-tribale plurimillénaire du fait d'être un peuple en exil. Vous connaissez l'histoire depuis 2000 ans. Bien, ce sentiment d'appartenance communautaire, on doit le retrouver aussi au Québec pour réinvestir dans nos institutions et comprendre quel est notre intérêt bien senti. Et pour ça, il va falloir se communautariser, avoir une conscience nationale forte entre Canadiens et Français. Parce que je vous le dis tout de suite, ce ne sont pas les Haïtiens, ce ne sont pas les Algériens, aussi francophones soient-ils, qui vont venir nous défendre. Si on ne se défend pas nous-mêmes dans le monde très dur qui vient, okay? C'est un monde très dur qui est en train de se profiler pour les Canadiens français. On va nous accuser d'être trop blancs, on va nous accuser d'être racistes, on va nous accuser d'être colonialistes. C'est déjà le cas. Mais tout ça va se radicaliser. Donc, nos enfants qui sont des minorités ethniques, on doit trouver une façon pour eux qu'ils réussissent à avoir un sentiment communautaire fort et d'être en sécurité dans certaines institutions. Ça passe notamment par l'éducation. Donc, les collèges privés catholiques traditionnalistes, comme par exemple l'Église Sainte-Famille, sont une voie. Je ne dis pas que c'est la seule chose à faire, mais c'est une réponse, en tout cas. Il y a une réponse communautaire catholique traditionnaliste qui se fait et qui, à mon sens, mérite d'être encouragée. Donc, si cette cause-là vous parle, je vous invite, vous allez sur le site de l'École Sainte-Famille.
C'est bien l'École privée Sainte-Famille, Granby, entre autres. Ça se peut-tu?
Granby?
Ça se peut-tu?
Je ne sais pas, c'est pas ce que j'ai compris. C'est une propriété à Beaumont.
Ah oui, OK, Lévis.
C'est à Lévis.
À Lévis.
Oui,
OK, c'est beau. OK, je l'ai. Parfait, c'est
bon. Oui, oui.
C'est parce qu'on m'a demandé un lien, fait que je vais l'envoyer là.
Oui, oui, c'est les recherches qu'ils ont menées vers une propriété à Beaumont, aux abords du fleuve Saint-Laurent. Donc, voilà. Donc,
c'est
l'objectif. Enfin, c'est pour ça qu'il y a des nomociens qui sont impliqués dans ce projet et qui m'ont demandé d'en faire la promotion. Je trouve que c'est une belle initiative, donc je vous la partage. Voilà, les catholiques traditionnalistes ne sont pas, à proprement parler, nécessairement nationalistes. Mais les valeurs pro-famille qu'ils défendent, des valeurs, dans le fond, conservatrices, hein, de base, pro-famille, sont totalement compatibles avec le nationalisme et avec la valorisation, finalement, de la démographie canadienne-française qu'il faut préserver, bien sûr. Donc, c'est pour ça que je vous parle de cette école pour filles. Voilà, mon cher Philippe.
On remercie Utilisateur 32.
Utilisateur 32.
Merci beaucoup. D'ailleurs, hein, j'en profite moi aussi pour remercier tout le monde. Puis, c'est pas une cassette, là. C'est grâce à vous que ça existe. C'est vrai.
Ouais, oui, c'est vrai.
C'est uniquement grâce à vous, les nomociens. Sinon,
bien sûr.
Sinon, ça n'existerait pas en tout. Utilisateur 32, Alexandre, qui te pose une question sur l'Europe. Quelles sont tes prédictions de la guerre russo-ukrainienne?
C'est compliqué, hein? Moi, je ne pense pas qu'on s'en va vers une désescalade. C'est-à-dire, je me méfie beaucoup de la... On vit dans la propagande. Je l'ai déjà dit sur la guerre. La propagande des deux côtés. Si vous écoutez ART, on va vous dire un truc. Vous écoutez de l'autre côté, voilà, Poutine, il va y avoir un putsch demain matin et les élites libérales russes de Moscou vont le renverser. Bon, il faut se calmer, là. Il faut se calmer d'un côté ou de l'autre. Hein? Ça ne sera pas l'effondrement de toute l'architecture mondiale dominée par les États-Unis et ça ne sera pas non plus Poutine qui va être renversé dans deux semaines par la gauche libérale moscovite. Hein? Donc, nos cerveaux sont une prise de guerre. Donc, il faut toujours prendre un pas de distance avec la propagande, qu'elle soit pro-ukrainienne ou pro-russe. Parce que là, des fois, je vois les nationalistes, là, ils sont dans un réflexe pavlovien.
Ah!
Tu vois, Radio-Canada nous dit de détester la Russie, donc on va se mettre à être pro-russe. Oui, mais je m'en fous, quoi. Radio-Canada, s'il me dit que le ciel est bleu, je ne veux pas dire que le ciel est rouge, hein. Donc, je veux dire, moi, je ne suis pas un adolescent attardé. Je suis capable de réfléchir moi-même. Et le mouvement nationaliste, actuellement, je le trouve qu'il est un peu trop dans le réflexe pavlovien de, comment je dirais, de prendre la position inverse des médias dominants. Donc ça, déjà, je tiens à dire ça. Après, on peut avoir des sensibilités pro-russes pour toutes sortes de raisons. Ça, je ne mets pas ça en question. Mais je dis juste, essayons d'être nuancés un peu dans ce conflit. Ben, moi, je pense qu'on s'en va vers l'escalade. Je le dis clairement, je pense qu'on s'en va vers l'escalade du conflit. Parce que Poutine est sur une dynamique d'affrontement avec l'OTAN. Il n'accepte pas que son pays devienne une puissance de troisième ordre mondial. Et donc, il va aller de l'avant. Et je pense qu'on s'en va vers une guerre très, très longue. Je rappelle que les Américains ont été 20 ans en Afghanistan. Ça va être très, très long, ça va être très, très dur, il va y avoir des milliers de morts. Et on va, toujours après ce genre de guerre-là, on va se demander un peu pourquoi, quoi. Comment ça se fait? Les nationalistes ukrainiens défendent leur terre, défendent leur intégrité territoriale. Ils sont soutenus, évidemment, par l'Occident. Et la Russie, quant à elle, considère que c'est un combat légitime. D'une part contre ce qu'elle appelle le régime, tu vois, national-socialiste de Kiev, voilà. Et d'autre part aussi pour des intérêts géographiques. Ils veulent récupérer le Donbass, qui est quand même un centre industriel de l'Ukraine. Chacun défend ses intérêts. Voilà. Poutine a décidé d'aller vers la guerre. Il a tourné le dos à l'Europe. On verra bien ce qui va se passer. Mais moi, je pense que ça rapproche mathématiquement la Russie de la Chine, même s'ils peuvent avoir certaines rivalités. Grosso modo, je pense qu'on s'en va vers un scénario où on est déjà, dans le fond, dans une confrontation géopolitique majeure entre le bloc occidental et le bloc eurasiatique. Et jusqu'à quel point ça va monter? C'est ça la question. Jusqu'à quel point les tensions vont être assez hautes? Est-ce que ça ne va pas dégénérer en Asie, etc.? Tout ça, c'est le point d'interrogation. On a fait plusieurs capsules là-dessus sur Nomos TV. Je vous réfère à l'entretien que j'ai fait avec Philippe Fabry, si jamais ça vous intéresse. Et j'ai fait également une capsule sur l'Ukraine. Sur nomostv.com, il y a deux... Donc, avec Philippe Fabry, je pense que c'est 2 heures, un entretien de 2 heures. On pense ce qu'on veut, mais en tout cas, c'est une lecture intéressante. Et ensuite, j'ai fait également une capsule géopolitique sur l'Ukraine en tant que telle et le conflit russo-ukrainien avec des scénarios de sortie de crise, division du territoire ukrainien, etc. Voilà, donc je vous invite à écouter ça. Et puis, les gens qui nous disent « Ah, ben ça prouve que c'est le déclin américain », ben pour l'instant, il y a plus de pays européens qui veulent la protection de l'OTAN que jamais. Ce qu'a réussi à faire Poutine, c'est de faire en sorte que les Européens se réfugient sous le parapluie nucléaire américain. Donc ça, c'est la conséquence actuelle des choses. Donc l'Europe de la défense, on n'y est pas du tout. On est plutôt dans l'Europe américaine. Ça, c'est la conséquence actuelle de l'invasion de l'Ukraine. C'est-à-dire que les pires paranoïas anti-russes ont été confirmés. Les Polonais, qu'on pensait que c'était des délirants russophobes, ben finalement, ils n'étaient peut-être pas si tarés que ça, les Polonais. Peut-être qu'ils avaient raison d'avoir peur de Moscou. Donc voilà. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'il y a des pays qui étaient plutôt neutres, notamment la Finlande, qui veulent rejoindre l'OTAN. Bon, ça, c'est l'action de Poutine qui fait ça. Donc on verra bien comment ça se passe. Mais voilà, hein, il faut faire attention à qui on soutient. Parce que s'il y a une escalade dans les prochaines années... Si le mouvement nationaliste en Occident en général paraît comme la cinquième colonne de l'ennemi, comme ça a été le cas en 1939-1945, ça peut mal se passer dans l'après-guerre. Je dis ça comme ça. Nos idées peuvent être discréditées. Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit, à qui on soutient, parce que la dynamique actuelle n'est pas une dynamique, comment je dirais, de baisse des tensions. On est dans une dynamique de montée des tensions et on n'a aucune idée de jusqu'à quel point ça peut aller. Et moi, je pense que ça peut aller très loin. Je pense que ça peut aller extrêmement loin, beaucoup plus loin que la plupart des gens peuvent l'imaginer. Donc, prudence. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Mon cher Philippe, après ce jogoton, on va passer au moment que vous attendiez tous, le moment pilule blanche. Et oui, parce qu'il y a quand même dans ce monde, ce monde remplacé, LGBT, transgenre, il y a quand même des lueurs d'espoir. Et là, on a un espoir. En Suède, mon cher Philippe, qu'est-ce qui s'est passé en Suède?
Ah, il y a eu un petit éveil.
Il y a eu quelque chose?
Bien, il y a surtout eu un massacre démographique qui dure depuis plus de 10 ans.
Oui, il y a eu comme une invasion migratoire par des gauchistes qui ont fait venir des hordes de Somaliens et de Mahométans.
Puis en Occident, Alexandre, ça fait quoi, 5-7 ans là, qu'on se fait sciller les oreilles, que la Suède est un exemple, là, c'est l'exemplarité en matière d'immigration, d'intégration.
Mon œil, oui.
Ben oui, on le sait, c'est devenu la capitale du viol, Stockholm, en Europe. Oui. C'est la catastrophe.
C'est les Danois.
Ben oui.
C'est les Suédois. Hein? C'est les Suédois de souche qui sont mis à être soudainement des violeurs. Non. Hein? On sait d'où ça vient. Toujours les mêmes populations. Alors, longtemps marginalisés, les démocrates suédois, le nom du parti, hein, voient leur victoire confirmée par des résultats quasi définitifs sur face à l'inquiétude suscitée par l'immigration et la criminalité en Suède. Criminalité, immigration. Ah, il y aurait un lien, comme François Legault. Est-ce qu'il y a un lien, M. Legault, entre l'immigration et la criminalité? Oui, en fait, il y a un lien. Hein? La première ministre suédoise, Magdalena Andersson, a reconnu mercredi 14 septembre la défaite de la gauche et la victoire du bloc de droite et de l'extrême droite, hein, la droite nationale, aux élections législatives après un comptage quasi complet des voix. En conséquence, la dirigeante social-démocrate a annoncé au cours d'une conférence de presse sa démission qui sera officiellement présentée jeudi. Le bloc, formé par 3 partis de droite et le parti de droite nationale des démocrates de Suède, démocrates suédois, à une petite majorité, mais néanmoins une majorité. Donc, avec 176 sièges, dont 73 pour les démocrates suédois, le bloc de 4 partis devance de très peu celui de gauche, 173. 176 pour la coalition de droite contre 173 pour la gauche. Le bloc inédit entre droite modérée et nationaliste voit donc sa victoire confirmée. Ce résultat est historique. Jamais jusqu'ici, un gouvernement suédois ne s'était appuyé au Parlement sur les démocrates suédois, les grands vainqueurs des élections avec 20,5% des voix et un nouveau rang de 2e parti du pays. Maintenant, le travail commence pour faire que la Suède soit bien de nouveau, a réagi son leader Jimmy Åkesson sur Facebook, promettant d'être une force constructive et d'initiative. Le scrutin était marqué par une progression fulgurante des démocrates suédois depuis les dernières législatives, puisqu'ils gagnent des voix, selon le média The Local, dans tous les territoires où ils étaient déjà implantés et sont même par endroits en première position devant le centre droit. Donc, ça vous donne une idée de ce qui est en train de se passer en Suède. C'est un changement complet de la politique suédoise, peut-être en matière d'immigration. C'est très bien, les Suédois se réveillent. Ça fait du bien de voir qu'il y a des peuples qui ont encore une pulsion de vie en Europe. C'est pas le cas de tous. Eh bien, pour les Suédois, on va leur mettre un bon pouce. Ils ont dû souffrir quand même. Hein. C'est pas drôle ce qui s'est passé en Suède, mais au moins ils se réveillent. Il y a certains pays, pour ne pas le nommer la France, ça subit une dégradation et le sursaut électoral n'est pas là. Donc, il faut quand même souligner ça chez les Suédois, hein?
Ouais.
Malgré tout. Là. Il y a des peuples qui ont une pulsion de vie. Il y a des peuples qui ont moins de pulsion de vie.
Puis c'est une grosse claque au camp progressiste, comme je disais tantôt.
Mondialement.
Exact.
Tout à fait. Donc, c'est très bien, là, l'immigration. Ouais, ben en fait, non. En fait, hein. Ça mène le désastre, la tiers mondisation, la catastrophe. Donc, il y a des pays qui ont des pulsions de vie, et on va le souligner. Pour une fois, Philippe,
Je
n'ai pas été chercher ça en Hongrie,
non.
En Pologne.
En effet.
En Suède.
Oui, ça pourrait être suivi de l'Italie, Alexandre. Hein?
Ça pourrait être suivi de l'Italie, là, c'est en septembre, on va voir ça. Giorgia Meloni, j'ai fait d'ailleurs une émission sur l'Italie, la montée de la droite nationale populiste, qu'on appelle populiste en Italie. Giorgia Meloni, l'Alliance de droite, la Lega de Salvini. Je vous invite à écouter ça sur nomostv.com, bien sûr. Sans plus tarder, mon cher Philippe, car je vois que l'heure avance malgré tout.
Oui.
Nous allons parler de ce fameux thème de l'immigration. Alors, Legault mélange immigration, extrémisme et violence, puis se rétracte. Donc ça, c'était quand même la semaine passée. Hein. C'est pas cette semaine. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est que François Legault, finalement, il fait un lien entre immigration et insécurité. Il s'excuse. Puis quelques jours plus tard, il en remet une couche sur la cohésion nationale. C'est-à-dire que là, il faut bien commencer à comprendre que Legault, il ne fait pas des gaffes, contrairement à ce que certains journalistes essaient de nous faire croire. Objectivement, ce qu'il fait, c'est qu'il sait très bien que c'est un thème porteur au niveau électoral. Et il met de l'avant l'immigration pour engranger des votes. Parce que la réalité, c'est que les Québécois, en grande majorité, les Canadiens français au Québec, en ont ras le pompon de l'immigration. Ils en ont ras le pompon de la diversité. Ils en ont ras le pompon de se faire traiter de raciste. ils en ont ras-le-pompon de se faire culpabiliser, alors qu'on est un des pays, et le Canada en tant que tel, hein, est le pays qui subit les changements ethnodémographiques les plus importants de tout l'Occident. Je vous réfère à la capsule que j'ai faite sur le grand remplacement au Canada, qui est disponible d'ailleurs maintenant à tout le monde, hein, c'est pas seulement aux abonnés. On a finalement levé la barrière tarifaire et on a mis la capsule disponible à tous. Je vous invite à l'écouter. C'est tout simplement fulgurant ce que subit le Canada. C'est le pays qui reçoit le plus d'immigrés par tête d'habitant de tout l'Occident. Donc, je veux dire, nous faire dire dans cette circonstance-là que l'immigration n'est pas un sujet valide, que finalement, le grand remplacement n'existe pas, qu'on n'a pas le droit de parler d'immigration, c'est insupportable. Les Québécois sont sensibles à la question de l'immigration et Legault vise juste. C'est ça la réalité. Contrairement à d'autres chefs de parti qui soit sont en négation de la question, soit sont dans le camp adverse. On va en reparler durant la deuxième heure. Il y a des partis politiques, ils décident de se positionner comme accélérateurs du grand remplacement en essayant de délégitimer la prise de conscience identitaire des Québécois. Donc François Legault a réussi à imposer l'immigration comme thème de campagne. C'est délibéré de sa part, ce n'est pas des erreurs sémantiques. Après, on peut juger que peut-être qu'il n'aurait pas dû s'excuser. Parce qu'il n'a rien dit, il n'a pas dit, les Noirs ont un bas quotient intellectuel, et c'est pour ça qu'ils sont criminogènes, bas quotient intellectuel, haut taux de testostérone, machin. Il n'a pas dit ça. Non, mais je veux dire, il faut quand même comprendre ce qu'il a dit.
Ça aurait quand même
fait ça. Ça aurait été pas mal, hein, ça, comme face à Anglade, ça, hein, ça aurait été beau. Bon, alors qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, on a parlé beaucoup de laïcité dans les dernières années, c'est une valeur aussi, le respect, les façons de vivre chez nous, on veut la garder. Bon, c'est ça.
T'as-tu le temps d'une petite question?
Oui, bien sûr.
C'est utilisateur 32 qu'on remercie beaucoup.
Oui, certainement.
Pourquoi Legault ne propose-t-il pas une baisse de l'immigration?
Bonne question.
Ouais.
Bonne question, parce que le lobby patronal veut déjà 100 000 immigrants par année. Le Parti libéral est à 70.
QS à 80.
QS est à 80, c'est le plus immigrationniste. Donc, en fait, la pression du côté de Legault, elle est principalement du côté des gens qui veulent augmenter l'immigration. Donc, je pense que pour avoir l'air modéré sur cette question-là, pour ne pas avoir l'air fanatique, il se dit, on va tout simplement accepter un gel à 50 000 et ça va paraître comme une position modérée acceptable. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'était 60 000 sous Couillard, 40 000 pour... 50 000 sous Couillard, maintenant 40, ça a été 40 000 la première année, puis le retour à 50 000 pour Legault. Donc, en fait, une espèce de gel de l'immigration avec François Legault, alors que la pression, hein, je rappelle que sur 5 partis politiques, il y en a 3 qui sont pour une augmentation. Donc, c'est quand même beaucoup. Enfin, il y en a 2 qui sont vraiment pour une augmentation. Un troisième, disons, le Parti conservateur, qui est plutôt muet sur la question, disons les choses, du M, c'est pas son thème de campagne. Et le Parti québécois, qui, heureusement, lui, propose quand même 35 000 immigrants par année. Alors, il y a d'autres choses que propose le Parti québécois qui sont problématiques, on y reviendra, mais au moins là-dessus, ils sont quand même assez lucides. Donc, la CAQ essaie de se positionner, je pense, comme modéré. D'ailleurs, vous remarquerez que dans les médias, on présente Legault comme une sorte de xénophobe. Hein.
Bien sûr.
Legault est présenté comme quelqu'un d'extrêmement dur sur l'immigration. On essaie de nous le faire. Et c'est toujours là qu'il faut faire attention entre l'image que les politiciens ont et leur programme. C'est comme Trump. Ah, Trump, c'est un facho, c'est un nazi, c'est Hitler. Ouais, bon, c'est quoi son bilan, en fait? Hein, faut toujours faire la différence entre l'image politique, l'image d'un homme politique et le bilan. Ce qui est plus intéressant, c'est le bilan. Bon, après, oui, ça change l'ambiance. C'est-à-dire, moi, je préfère voir Legault qui nous disent, l'immigration, on a un seuil minimal, et puis on a un seuil qui est atteint d'intégration, et puis voilà, et puis on n'ira pas plus loin que ça. Je préfère ça à avoir un parti libéral qui nous dit toujours plus, pénurie de main-d'œuvre, immigration, ouverture, nanani, nanana. Après, c'est vrai que Legault, peut-être son bilan est assez modeste sur la question. Mais il a décidé d'en faire un thème de campagne. Et il sera élu, fort probablement. Hein. Si on se fie au sondage depuis maintenant plusieurs années, il se dirige vers une victoire facile. Donc, il décide de mobiliser cet électorat sur la question, finalement, sur la question de l'immigration. Ça semble quand même fonctionner. On pourra me dire qu'il y a une baisse dans les sondages pour Legault, mais ça, je pense que c'est le... Oui, il reste quand même à... Il reste à quoi?
À 40. Oui, mais 38-40.
38%.
Bon. Ben oui. Il n'y a personne de même pas proche. Ben,
c'est gigantesque. Et je pense que c'est l'effet de la campagne électorale. C'est-à-dire qu'avec la pandémie, Legault avait le devant de la scène. Maintenant, il n'est plus devant de la scène. Il n'est plus uniquement seul. Il y a les autres partis. Donc, c'est normal qu'il baisse un peu. Malgré tout, il reste largement en avant. Et là, quatrième article, mon cher Philippe. Immigration non francophone, protéger le français assure la cohésion nationale, dit Legault. Donc, il en rajoute. C'est plus immigration et insécurité et violence. Le chef de la coalition Avenir Québec a précisé lundi le fond de sa pensée sur la question de l'immigration allophone, alors qu'il affirmait dimanche à Drummondville qu'elle pouvait devenir une menace à la cohésion nationale si elle n'était pas limitée en nombre afin de respecter la capacité d'accueil du Québec. Je pense qu'une des raisons pourquoi les Québécois ont suivi les consignes plus qu'ailleurs, c'est parce qu'ils ont une cohésion nationale. C'est parce qu'il y a une cohésion nationale au Québec. Les gens sont autour de certaines valeurs, une nation tissée serrée. Mais pour qu'il y ait une cohésion nationale, il faut qu'il y ait une nation forte. Et la nation québécoise, pour être forte, il faut protéger le français, sinon il y a des inquiétudes, a expliqué le chef caquiste. Donc, protéger le français, ça fait une nation forte. Et une nation qui est forte, ça fait une cohésion nationale qui fait qu'on s'aide quand il arrive des malheurs et des crises, a-t-il poursuivi. Il a centré ça sur le français. Ce n'est pas la seule valeur, évidemment, hein, parce qu'on peut dire, je le répéterai, je l'ai déjà répété, je vais le répéter 100 000 fois, Adil Sharkawi, les islamistes, ils parlent français. Ce n'est pas juste la question de la langue. Hein. Mais disons qu'on comprend ce qu'il veut dire. On va limiter l'immigration pour garder une cohérence nationale. Tout le monde comprend en gros ce que ça veut dire. C'est-à-dire, en gros, le multiculturalisme, ça divise la société, ça fait qu'on est chacun dans nos communautés, et il n'y a plus d'unité nationale parce qu'on n'appartient plus à la même nation. Voilà, on devient une société multiraciale, multiethnique, multiconfessionnelle et multiconflictuelle. Et pour ça, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut réduire grandement hein, ce flot migratoire qui se déverse sur nous depuis des années. Legault ne réduit pas grandement, il a décidé plutôt le gel. Est-ce que dans les prochaines années, il va promettre de réduire l'immigration? Aucune idée. Aucune idée. Mais en tout cas...
Ou est-ce qu'il pourrait le faire, Alexandre? Juste comme le faire après les élections? De diminuer les seuils? Sans en faire un sujet de campagne, arriver... Je ne suis pas en train de dire que c'est des cryptos ultra puis qu'ils vont baisser ça à 25 000
Mais on sait que la CAQ, on sait que la CAQ avec Fitzgibbon met de l'avant quand même la robotisation des PME québécois.
Ben oui.
Fitzgibbon, il se promène un peu partout au Québec et il donne des enveloppes pour que les entreprises se robotisent.
Oui.
Donc ça, là-dessus, on voit que la CAQ est quand même, avec la pandémie, elle a sacrifié complètement le milieu de la restauration. Donc, la restauration, c'est ce qui demandait le plus de main-d'œuvre à bas coût, donc d'immigrants. Donc, on voit qu'ils sont quand même sur un plan de réalignement économique pour se débarrasser tranquillement, finalement, de l'immigration massive. Ça, c'est plutôt positif. Après, de notre point de vue, bien sûr, la CAQ est beaucoup trop molle et sur la langue française et sur l'immigration. Il faut donner un coup de barre beaucoup plus important. Mais vous voyez ce que Legault fait d'un point de vue électoral. Il se positionne comme le défenseur de la nation. Et il dit au lobby multiculturaliste, « Oh, il y a un problème avec l'immigration. Il y a une insécurité culturelle des Canadiens français. » Et on va en parler, et moi je vais en faire un thème de campagne, et allez bien vous faire foutre. Donc on a quand même un chef, un premier ministre en poste, premier ministre sortant, qui décide de faire de la défense nationale en lien avec l'immigration un thème de campagne majeur. Est-ce qu'il y a ça au Canada anglais? No! Jamais vous ne trouverez ça au Canada anglais. Pierre Poilievre, jamais il va parler d'immigration à ces termes. Donc, on est encore une fois dans l'exception québécoise. On est le seul endroit en Amérique du Nord, à peu près, en tout cas au Canada certainement, où on parle d'immigration de manière aussi décomplexée. Pourquoi? Ben, pour une raison. Alors, évidemment, il y a certains États aux États-Unis où on parle d'immigration. Bon. Mais on peut le faire, nous, sous un voile beaucoup plus clair parce qu'on a une conscience nationale d'être minoritaire. Et, Legault joue beaucoup là-dessus. Voilà. Mon cher Philippe.
On remercie Charlemagne Tricotin.
Charlemagne!
Généreux don, merci beaucoup.
Excellent,
Charlemagne. Même si la CAQ a un peu baissé dans les sondages, Je crois que ce parti va quand même faire un excellent score car les autres partis vont se battre pour les miettes et la CAQ réussira à se faufiler pour gagner la grande majorité des comtés.
Je suis assez d'accord avec vous.
Bien sûr.
En plus, à 30, même s'il y a une baisse, tu vois. Parce que dans un système multipartite, tu peux avoir 35 % des voix et être ultra dominant au Parlement. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, la CAQ, qui est proche des 40 % quand il y a les autres comtés se divisent en quatre autres partis, mais avec le système électoral qu'on a, c'est hyper dominant. La CAQ est hyper dominante.
Ouais.
La question, moi, ma question, c'est pas est-ce qu'ils vont être élus, c'est est-ce qu'ils vont avoir plus ou moins de 90 députés? Moi, je suis plutôt ça dans la question. Ouais, 95, est-ce qu'ils vont réussir à taper le 100 députés? Je pense pas. Mais ils pourraient aller vers, ouais, 95 députés. Là. Ils pourraient dominer la scène politique québécoise, mais à un point comme on n'a jamais vu, parce que le système électoral favorise évidemment le bipartisme. Or là, on n'est pas du tout dans une séquence bipartite. On est dans une séquence de multipartisme. Et ça favorise, ce parti qui a réussi à prendre le vote libéral canadien-français, prendre le vote des anciens péquistes, fusionner ça ensemble. Il a fusillé le Parti libéral. Il a fusillé le Parti québécois. Et maintenant, il se retrouve d'ailleurs vers une recomposition. Il y a une recomposition politique au Québec. Parti conservateur qui émerge. EQS qui finalement s'impose de plus en plus dans notre paysage politique, qu'on le veuille ou pas, c'est la réalité, eh bien, ça prouve qu'il y a un rebrassage des cartes. Et le Parti québécois et le Parti libéral, les deux partis d'alternance de pouvoir, se retrouvent un petit peu le cul à l'eau. Ils ont un problème d'identité face à l'hégémonie caquiste. Ils se font siphonner leurs électeurs par la coalition Avenir Québec. Les électeurs canadiens-français, en tout cas, en grande partie. Donc, on vit une recomposition politique et je suis assez d'accord pour dire que la CAQ va être assez dominante dans les prochaines années. Moi, je pense que la gauche va finir par s'allier. GND et Anglade, au fond, ils sont à peu près sur le même logiciel de gauche, social-démocrate, multiculturaliste, immigrationniste. Donc, on va se demander de plus en plus qu'est-ce qui se distingue l'un de l'autre. Alors, évidemment, le Parti libéral est plus propre. Madame Anglade est une multimillionnaire. GND plus proche du monde communautaire, syndical, ce qui ne veut pas dire que lui-même ne vient pas de la petite bourgeoisie. Là. Les gauchistes sont souvent des bourgeois, ça c'est une autre question. Mais évidemment, bon voilà, QS, ça sent le patchouli, quoi. Alors que le Parti libéral, plus propre, ça sent plus les chambres de commerce. Mais regardez ce qui se passe avec le Parti libéral du Canada. Justin Trudeau est devenu, c'est le premier chef, le premier gouvernement NPD, finalement, de l'histoire du Canada. Et d'ailleurs, il est en alliance avec le NPD. Donc, je pense qu'on s'en va vers le PLQS, la formation du PLQS dans les prochaines années. Et là, il va y avoir une recomposition à droite. Je pense que le Parti québécois va tout simplement décéder. Il va mourir de sa belle mort. Ça va être la fin du péquisme. Le PQ va connaître à peu près le même destin que l'Union nationale. Un long dépérissement et puis, voilà, une espèce d'effacement progressif. Et là, il y a le Parti conservateur du Québec. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que c'est un épiphénomène? Est-ce qu'il va réussir à s'imposer? On va voir. On va voir comment ça va se passer. On sent que Duhem veut essayer de remplacer finalement Dominique Anglade, en gros, le Parti libéral.
Bien sûr.
En se collant sur les thèmes pro-anglais, contre le renforcement de la loi 101, des appels du pied au vote anglophone, même des appels du pied au vote angryphone, carrément les anglophones qui ont la haine du Québec français. Donc, comment ce parti-là va évoluer, on va bien voir, mais malheureusement, je ne pense pas qu'il aille du côté nationaliste après les élections. Je pense que Duhem avait la chance de transformer vraiment le Parti conservateur du Québec, qui était très anglophile, vers quelque chose d'autre. Il n'a pas pris cette opportunité, il a poursuivi dans la voie que lui avait donnée Adrien Pouliot, et ça aura les conséquences que ça a. Moi, je connais plusieurs personnes, même des gens qui avaient leur carte du Parti conservateur du Québec, qui, voyant l'anglophilie et l'anglomanie et le refus d'aborder les questions identitaires par Éric Duhem, vont pas voter pour le Parti conservateur. Donc, le Parti conservateur va peut-être aller chercher quelques votes, des Anglais, tout ça, mais il a mis une croix sur le vote des nationalistes. Et ça pourrait... C'est un frein, finalement, pour le développement du Parti conservateur du Québec. Je pense qu'Éric Duhem a fait des mauvais choix stratégiques. L'avenir nous dira quel sera l'avenir de ce parti. Mais en tout cas, recomposition politique, déclin du Parti libéral, déclin du Parti québécois, déclin solide du Parti québécois, stagnation de la CAQ, montée du Parti conservateur et hégémonie, finalement, de la coalition Avenir Québec. c'est ce qu'on voit actuellement. Et je pense qu'on est dans ce paradigme-là pour les années 20. Je pense que avant qu'il y ait vraiment une belle recomposition, que ça soit très clair aux yeux de tout le monde quels sont les nouveaux camps politiques, il va falloir attendre les années début 2030 pour vraiment voir ça s'installer. Je pense que la CAQ pourrait facilement être réélue encore une fois, réélue en 2022 et potentiellement être réélue en 2026, ce qui nous mènera en 2030. Et puis bon, après trois mandats, ben, il y a une sorte d'usure du pouvoir aussi. Le PLQS pourrait reprendre le pouvoir avec peut-être GND à la tête de ce parti-là, de Parti libéral qui aurait fusionné avec Québec solidaire. Ouvert au monde, multiculturaliste, nanani, nanana. Voilà.
Puis aussi, comme on se disait juste avant la capsule, Alexandre, que en réalité, puis Isabelle Maltais d'ailleurs l'a dit dans le clavardoir, là, en fait, Legault, là, il y a presque tous les baby boomers avec lui, puis c'est, je pense, c'est quoi, c'est 63 ou 65%
du Québec.
C'est ça aussi.
Il y a la gérontocratie aussi qui joue.
Oui. Puis sur les mesures sanitaires, je pense qu'il y a presque une majorité qui trouve qu'il n'en a pas fait assez.
Ben, bien sûr.
Fait que, je veux dire.
Non, mais exactement. Ah, ben là, ça.
Parce que, oui, QS, c'est bruyant. Oui, Duhaime, c'est bruyant en matière de ce qui se passe en ce moment.
Tout à fait.
Mais bon, la réalité, c'est que.
La réalité, c'est que.
C'est un peu bof, là. C'est un peu seconde zone.
Ben, le Parti conservateur, moi, je pense que si Duhaime est élu, c'est très bon. Hein. S'ils ont un élu, c'est très bon. S'ils ont trois élus, c'est incroyable. C'est une grande percée électorale.
Oui.
Moi, je pense que c'est ça la réalité.
Moi aussi.
QS va peut-être stagner en termes de voix. Ils vont perdre des comtés hors Montréal, mais ils vont en garder. Ils vont pas perdre en termes de voix, ils vont peut-être garder le même nombre d'élus, ils vont perdre hors Montréal, puis ils vont peut-être en gagner à Montréal, à Verdun, d'anciens comtés rouges, ça c'est possible. Donc, stagnation de Québec solidaire au niveau électoral, au niveau de leur députation, et puis Parti québécois quand même assez balayé au niveau de leurs députés. Je pense qu'ils sont rendus à 7 députés, et s'ils en ont un, Pascal Bérubé, ça risque d'être le seul qui reste, quoi. Donc, voilà. On est dans ce paradigme-là. On va revenir un petit peu plus sur les chefs en deuxième partie d'émission. Cinquième article, mon cher Philippe.
Oui.
Un petit reportage intéressant de Radio-Can, ici. Roxham Inc., le commerce payant de l'immigration illégale. Moi, je rajoute illégal, parce que ça, c'est ce que dit pas Radio-Canada, mais c'est l'immigration illégale. Champlain est à New York. Chaque fin de semaine, la même scène se répète. Une dizaine de migrants débarquent d'une camionnette blanche immatriculée en Floride avant de traverser ce petit bout de terre qui sépare les États-Unis du Canada sous les yeux des policiers canadiens. Au chemin Roxham, ces véhicules font désormais partie du voyage, une nouveauté surprenante sur cette célèbre route mondialement connue qui accueille des milliers de demandeurs d'asile. Qui conduit ces camionnettes? D'où viennent-elles? Comment arrivent-elles jusqu'à Roxham? Ces questions, nous ne sommes pas les seuls à nous les poser. Sur place, des agents canadiens prennent des photos et des vidéos lorsqu'ils arrivent, ces larges voitures, alors que seuls les taxis, en principe, seraient autorisés à transporter des migrants à cet endroit où il est normalement interdit de traverser la frontière. On en voit de plus en plus, on n'avait jamais vu ça. Ça nous intrigue vraiment, lance un policier sous couvert de l'anonymat. Bon, ensuite, Radio-Canada essaie de contacter finalement un passeur, parce qu'en gros, c'est ça, c'est des réseaux de passeurs de migrants. Donc, je vous épargne la moitié de l'article. Radio-Canada nous dit ceci. L'homme au bout du fil, très avenant, n'a qu'une seule condition, lui verser cash la somme de 600 US dès notre rencontre. Pas très cher, hein? 600 US. On part vendredi, on arrive samedi soir, détaille-t-il avant de raccrocher. Le montant réclamé est dans la fourchette de ce que nous ont déclaré plusieurs migrants ayant eu recours à des services similaires. Il n'y a cependant pas de tarif fixe. La somme semble varier selon le chauffeur et l'origine des clients. Donc, on est dans le coin, dans la mafia, finalement, et le trafic humain. Un chemin Roxham, des heures de vertu, ah là là, c'est génial. Non, en fait, c'est des gens qui font du pognon, c'est le trafic humain. Et il y a des types qui font, finalement, qui sont les passeurs, qui font de l'argent avec ça. Est-ce que c'est lié au crime organisé? Potentiellement, oui. Donc, il y a des risques que ça le soit. Tout ça pour dire que ce thème de Roxham, à mon avis, n'est pas assez présent dans la campagne électorale. On devrait plus le mettre de l'avant. Legault n'en parle pas beaucoup. C'est malheureux. D'autres partis ne font pas leur cheval de bataille. Hein. Duhaime a mentionné ça durant le débat, mais sans plus. Paul Saint-Pierre Plamondon, je pense, peut l'évoquer, mais l'évoque toujours à demi-mot. Donc, il n'y a pas de parti qui, je trouve, s'empare vraiment de cette question-là, alors qu'elle me semble assez fondamentale, puisqu'elle est liée à la fois au changement de peuple, c'est-à-dire il y a des enjeux identitaires, mais il y a aussi des enjeux sécuritaires. Et on lit les deux. hein, entre l'insécurité et évidemment le chemin Roxham, cette immigration illégale venue des États-Unis, venue du tiers-monde et qui passe par les États-Unis pour se retrouver au Canada, des gens qui n'auraient strictement rien à faire ici. S'ils veulent faire une demande d'asile, qu'ils fassent une demande d'asile. Et leur demande d'asile sera probablement refusée. Bon. Ils ne sont pas en danger de mort en étant aux États-Unis. Vous pouvez comprendre ça. Ils ne sont pas en danger de mort en étant aux États-Unis. Hein, les Haïtiens qui sont aux États-Unis... Voilà, Haïti, est-ce que c'est un pays en guerre? Oh, c'est un pays à la ramasse. Oui, on n'est pas destiné à accueillir toute la misère du monde. Ça va, quoi. Les Haïtiens qui se retroussent les manches, hein, et qui bossent pour leur pays. Hein? Parce que le problème des Haïtiens, c'est qu'est-ce qu'ils ont? Ben, ils ont leurs élites qui fuient le pays. Dominique Anglade, elle serait plus utile en Haïti en train de rebâtir le pays plutôt qu'être chef du parti corrompu du Québec, Parti libéral. Ça, c'est la réalité. Elle vient de l'hyper-bourgeoisie haïtienne. Hein, son père, Georges Anglade, a été ministre de Bertrand Aristide. Elle est elle-même mariée à un multimillionnaire d'origine allemande. On a évalué, là, il y a des journalistes qui ont évalué que sa fortune personnelle, c'est 14 millions de dollars. Ça, c'est l'élite haïtienne. Elle fout le camp. Et elle vient ici à nous dire qu'on est des racistes, on est des xénophobes et on devrait se faire remplacer. Ben, l'élite haïtienne devrait peut-être rester en Haïti. Peut-être que ça irait mieux dans ce pays-là. Évidemment, Haïti, c'est une catastrophe dès le départ, depuis le début de la République haïtienne, puisque la politique de Dessalines, hein, qui prend le contrôle du pays, dès 1804, si je ne me trompe pas, ben, c'est le nettoyage ethnique des Blancs. Hein. Dessalines, il proclame l'assassinat, le meurtre de tous les Blancs sur l'île. Ça veut dire non seulement les hommes qui sont capables de combattre, ça veut dire les femmes et les enfants. Les Haïtiens, c'est un peuple génocidaire qui tue les Blancs. Et après, ils pleurnichent, ils viennent au Québec et ils nous accusent d'être trop Blancs. Voilà, quoi. Fermez-la, hein. Et puis en plus, ils viennent ici nous dire, avec des drapeaux haïtiens, nous faire de la fierté haïtienne. Les gars, calmez-vous, quoi. Prenez vos drapeaux, retournez chez vous et bâtissez votre pays. Donc, il va falloir se calmer la fierté haïtienne à Montréal. Donc, ces gens-là n'ont rien à faire sur le territoire national. Donc, ça, c'est la réalité. Hein. Les migrants du chemin Roxham, beaucoup d'Haïtiens, il faut fermer les frontières. Il faut fermer les frontières. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, il faudrait remettre de l'avant ce chemin Roxham. Cette question du chemin Roxham, il faudrait la remettre de l'avant. Et cet article de Radio-Canada tombe à plat. Mon cher Philippe.
Kiwi punchline.
Kiwi, comment ça se passe, Kiwi?
Bon, qu'on remercie beaucoup. Petite pilule blanche personnelle. J'ai aidé un homme haïtien à trouver du boulot bien rémunéré.
Excellent!
Le communautarisme doit être fait concrètement et non seulement le prêcher.
Exactement.
Zoom, 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 les nègres blancs. Et merci pour tous vos dons. On pose de la fonte et on fonde des foyers.
Hush, hush, hush! On lit, on fonde des foyers. Ah, merci à Kiwi Punchline. Je rappelle qu'il est sur Odyssée. On s'abonne à sa chaîne. Merci, Kiwi.
Frédéric André m'a fait dire nègre.
Comme Paul Saint... T'as été... tu t'es fait attraper comme GND s'est fait attraper par Paul Saint-Pierre Plamondon. T'as été forcé à dire le mot nègre devant des milliers de téléspectateurs, d'internautes, dans notre cas d'internautes. Bon, alors, c'est la fin de cette première partie d'émission. J'espère que vous avez été convaincus par ma démonstration. C'est une petite revue de presse, un peu, là, de ce qui se passait, centré sur le thème de l'immigration. Tout ça pour vous dire que ce qu'on vit au Québec actuellement avec sa campagne électorale, c'est pas entièrement négatif parce qu'on en parle. Et moi, juste pour ça, je suis quand même positif. Après, évidemment, il faut voir qu'est-ce qu'il y en est concrètement. Mais dites-vous bien que le sujet de l'immigration aurait pu être mis sous le tapis, comme il l'avait été depuis des années par le Parti libéral qui a augmenté les seuils d'immigration. On a un gouvernement qui est assez mou, qui promet un genre de gel, et qui incarne pourtant une espèce de xénophobie. Hein. C'est un peu ce qu'on essaie de nous faire croire là, sur Legault, sur une forme de xénophobe, etc. Alors que finalement, ses positions sont plus que modérées, on va dire ça comme ça, hein, pour être gentil. Il ne fait pas grand-chose, Legault. Hein. Il se positionne comme défenseur de la nation. Dans les faits, ça reste assez mou, soyons honnêtes. Cette campagne-là électorale est impossible au Canada anglais.
En effet.
On est le seul endroit au Canada où on peut parler d'immigration de manière aussi décomplexée que ça. Ça, ça me fait quand même dire qu'il y a un terreau fertile pour que dans quelques années, il y ait un débat, je veux dire que l'immigration soit un débat constant de la politique québécoise et qu'il y ait peut-être un jour un parti de droite nationale qui émerge et qui soit capable de prendre le pouvoir. Donc, je vois des signes encourageants, mais évidemment, c'est dans la longue durée, c'est pas là, dans les deux prochaines années que ça se fait. Et ça, quand même, la CAQ est une espèce de parti transitoire qui nous mène vers autre chose. Il faut voir de quoi cette autre chose sera fait, mon cher Philippe.
Roman, qu'on remercie encore, évidemment.
Merci, Roman.
Pour les non-membres, soyez en phase avec vos valeurs. Arrêtez immédiatement vos abonnements Wokeflix et Amazon et rejoignez Nomos TV afin de profiter de la deuxième partie.
Exactement. Moins de Soros, plus de Nomos. Ah oui, c'est comme ça. On s'en va sur www.nomostv.com, nomostv.com et on s'abonne pour devenir membre de Nomos TV et avoir accès à cette deuxième partie où on va faire l'analyse du premier débat, l'analyse du débat TVA. Vous allez voir, on va bien rigoler.
Oui.
Philippe a déjà donné le ton. Ça va parler. C'est incroyable, dans les débats des chefs, quand même. La gauche nous impose, par sa volonté, finalement, de censure, elle impose dans le débat des chefs le mot « nègre ».
Oui.
Maintenant, dans les débats des chefs au Québec, il y a le mot « nègre », avec, évidemment, l'ouvrage de Pierre Vallière, « Nègre blanc d'Amérique ». Incroyable! Quel retournement de situation. Le Canada anglais veut nous culpabiliser de ce mot et, finalement, il se popularise. Donc, on est bienvenue au Québec, c'est comme ça. Hein, on va parler de notre condition nationale. Peu importe ce qu'en pensent les angloïdes haineux. Alors, mes chers amis, je vous dis à très bientôt. Je sais que vous serez là la semaine prochaine. Pourquoi? Parce que vous êtes quoi? Qu'est-ce que vous êtes? Mais c'est pas très compliqué. Vous êtes la résistance nationaliste.